Et vous écoutez France Culture. Ne sachant pas que c'était impossible, je l'ai fait, Jean-Pierre Melville. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Après Clouseau, mauvais genre pistera ce soir, de rue en boîte et de bar en commissariat de ses autres cinéastes fétiches, Jean-Pierre Melville, dont on commémore cette année le centenaire de la naissance, l'occasion pour nous de sonder, de Bob le flambeur à un flic, en passant par l'Armée des Ombres, son monde nocturne et blafard, violent et tragique, d'aller de lieu en thème, de ses studios de la rue Génère à la solitude de ses héros, d'objets en figure, de chapeaux mous en scène de casse. Quand tombe la nuit, c'est alors que commence notre tâche, Melville de pied en clap, c'est ce soir dans Mauvais Genre. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans un mauvais genre résolument cinéphilique et cinématographique ce soir, puisque je le répète, après Clouseau évoqué il y a quelques semaines, c'est ce soir Jean-Pierre Melville, 1917-2017, donc son centenaire, accompagné de toute une série d'événements que nous allons relier, évoquer, et puis surtout, nous allons tenter d'en savoir un peu plus à notre manière sur le singulier personnage que fut Jean-Pierre Melville. Et pour mener cette filature savante, fervente et amoureuse, je serai avec Hervé Aubron. Bonsoir.
Bonsoir.
Hervé Aubron, actualité d'Hervé Aubron, dont je rappelle qu'il est rédacteur en chef adjoint du magazine littéraire.
Oui, bon, c'est une petite actualité.
Et surtout cinéphile et historien du cinéma.
Bon, historien, ouais.
Si,
petit
donc,
amateur. Mais, dans l'actualité, c'est juste, on fait une édition augmentée, revue et augmentée du petit livre que j'avais fait sur Pixar, en fait, qui s'appelait Génie de Pixar, qui était sorti il y a 5 ans. Et puis voilà, il était plus en librairie. Puis, Pixar, en 5 ans, il y a d'autres choses qui se sont passées. Donc voilà, début décembre, à l'occasion, du dernier film de Pixar, qui est quand même une aventure au pays des morts,
hein.
Coco.
Coco.
On sort une édition revue et augmentée de ce livre, Génie de Pixar.
Je rappelle que vous aviez...
Chez Capricci.
Bien sûr, chez notre invité pour Werner Herzog, à l'occasion donc de la sortie en DVD des somptueuses éditions récentes. L'autre figure présente pour Melville, c'est le Melvillien de... Je ne vais pas dire d'office, mais le Melvillien de mauvais genre, c'est Philippe Rouillet. Bonsoir.
Bonsoir François.
Alors, on va parler du centenaire de la naissance de Melville, je le répète, mais Aguay également parlé du départ de quelqu'un qui s'appelait monsieur...
Louise Bacalov, alors vous allez me dire, qui c'est ça?
Réponse. C'est ça, Louise Bacalov, Philippe Rouillet.
C'est le compositeur, vous avez entendu là, de la musique de Django. Pas que de Django, mais bon, c'est un musicien qui est né en Argentine et qui, dès la fin des années 50, va s'installer en Italie, et c'est en Italie qu'il va faire toute sa carrière. Alors, a priori, très largement dans le cinéma de genre. Alors, il est vraiment, il y a ce thème générique de Django qui est devenu d'autant plus célèbre parce que, d'une part, on a redécouvert le film de Corbucci il n'y a pas très longtemps, et puis, là-dessus, il y a quand même Tarantino, n'est-ce pas, Hervé Aubron, qui fait Django Unchained et qui récupère carrément la chanson de Django dans son Django Unchained. Hein. Et auparavant, Tarantino avait déjà récupéré pour Kill Bill un morceau de musique que Bacalov avait fait pour un autre western qui était Le Grand Jeu. Donc il y a cette circulation, en même temps, Bacalov, c'est pas que le cinéma de genre. Enfin, il fait presque tous les films de Fernando Di Leo, tous les polars. Malheureusement, Fernando Di Leo est vraiment le cinéaste le plus méprisé par l'édition vidéo.
Adressons aux presse qui nous gouverne. Voilà. On veut du Fernando Di Leo en Blu-ray coffret, sinon on va devenir très méchant.
Milan Calibre 9, The Boss, etc. Bon, il fait une dizaine de musiques de films. Bon. Et parallèlement, il travaille quand même avec des auteurs. C'est-à-dire qu'un de ses premiers contrats, c'est avec Pasolini sur L'Évangile selon Saint Matthieu. il va faire... alors, évidemment, l'Évangile selon saint Matthieu, on ne se souvient pas que de la musique de Bacalov. Il y a un certain nombre de...
Il y a un certain nombre
d'autres musiques qui viennent là. Mais, par exemple, quand Fellini fait appel à lui pour La Cité des Femmes, c'est que du Bacalov. Hein. Rosie pour La Trêve, cette composition très, très, très lyrique pour accompagner les camps de concentration. Et puis, il y a quand même un Oscar... C'est pour Le Facteur, le film de Radford avec Troisi et Noiret, donc c'est toujours l'Italie, c'est en 96 qu'il reçoit l'Oscar du meilleur compositeur, qui va donner une certaine aura. Et ce que j'aime, c'est qu'une de ses dernières musiques de film, c'est un retour à l'Argentine de ses débuts, c'est pour le film de Robert Duval, Assassination de Tango. Et donc, il y a une sorte de boucle et bouclée par rapport à son parcours personnel. C'est assez beau. En tout cas, Bacalov, c'est un musicien à redécouvrir, et pas seulement via Tarantino.
Voilà, nous n'oublierons pas Luis Bacalov. Thème de Django signé Luis Bacalov, à qui nous adressons un ultime salut. Nous ne l'oublierons pas, pas plus que nous n'oublions bien sûr l'encyclopédie pratique des mauvais genres, le moment solennel et inaugural de notre émission tous les samedis. Et la lettre du jour, ma chère Céline, c'est quoi ?
Eh bien, c'est la lettre C comme Chéniaud.
Céline.
Eh non, Chéniaud, François Chéniaud.
Hey, mes amis. On danse ou on crève. Hey, mes ennemis, la vengeance ou la grève. Salut, salut.
Tout le monde va connaître. PNL, c'est ce groupe de rappeurs de Corbeil qui ont un énorme succès depuis 2 ans. Et ça, c'est une de leurs chansons les plus connues.
François Chéniaud me reçoit la tête gracieusement enturbanée dans une serviette de bain, l'œil maquillé, ourlé de noir, des boucles qui perlent à ses oreilles. Inclassable François Chéniaud, chorégraphe et danseur hors pair, tout aussi à l'aise dans des chaussons, des talons aiguilles que des baskets ou des pointes, passant de la danse contemporaine au voguing, sans oublier la dancehall jamaïcaine, capable de transformer une chanson de rap en complainte mélancolique, de chanter aussi bien le répertoire de la très médiévale et extatique Hildegard von Bingen que des airs canailles chez Madame Arthur, cabaret de travesti. Les 30 novembre, 1er et 2 décembre prochains, on retrouvera François Chéniaud sur les planches, notamment à travers Radio Vinci Park, une pièce pour motards et danseurs, où dans un parking souterrain va se déployer un inquiétant rituel moto-machique. Mais pour l'heure, retour sur Pâquerette, une pièce chorégraphique de 2008 de François Chéniaud et Cecilia Bangolea, un must du mauvais genre, puisque cette création au titre bucolique est faite pour 2 danseurs et 2 godemichets. Le sujet de Pâquerette, la pénétration.
Oui, c'était la pénétration, c'était le désir d'élargir le spectre des pratiques possibles pour nos corps, mais surtout pour la chorégraphie, pour la danse, qui sans cesse essaye de se réinterroger sur leurs limites et leurs enjeux. Ça nous semblait que la danse, elle a eu toujours des rapports, pour le coup, ambigus avec la sexualité et avec un discours aussi ambigu entre dans la danse moderne, la danse contemporaine, avec un désir de libération, d'affranchissement, de discours très progressistes sur les corps, et qui était souvent bizarrement couplé avec une forme de soit de puritanisme ou soit de blackout sur certains gestes, notamment de pénétration, qui, s'ils sont abordés en termes chorégraphiques, le sont soit sur le mode de l'ironie, ou alors ils le sont, mais dans des contextes scéniques qui ne sont pas ceux de la danse théâtrale, dans un peep show ou dans un théâtre érotique, et qui sont aussi des formes artistiques hyper intéressante, mais ça nous a donné envie d'affirmer que notre pratique de la danse dite contemporaine dans les espaces qui lui sont réservés, avec, que c'était une pratique qui était sœur de la pratique de celles ou ceux qui font du théâtre érotique, de celles qui font du travail du sexe, et que c'était des gestes qu'il fallait inclure dans leur pratique chorégraphique.
C'était aussi une manière, quelque part, de mettre à l'honneur une partie du corps qu'on voit peu en danse et qui est peu mise en valeur, qui est l'anus.
Oui, bien sûr, parce que les parties génitales, elles sont très souvent masquées dans la danse, qu'elles soient classiques, scéniques ou même sociales. On montre quasiment jamais les parties génitales, mais pourtant elles sont au cœur d'un imaginaire plus ou moins sourd. Dans la danse moderne, cet imaginaire il est en général complètement mis sous silence, mais pourtant il est très central, c'est-à-dire qu'on sait bien que pour danser, il faut, pour tenir en équilibre seulement, il faut avoir conscience de son périnée, il n'y a pas un seul geste qui ne part pas de la conscience du périnée. Moi, au conservatoire, on me parlait de ça, mais sans jamais faire le lien avec que ce périnée, il ne sert pas juste à tenir sur une jambe en équilibre. Il a aussi, donc, il y a cette espèce de place à la fois centrale et souvent mise sous silence. Et nous, on voulait non pas placer la pénétration, les zones génitales au centre de la danse, mais juste de pas les escamoter, quoi. Leur donner droit de présence, droit de cité, mais sans nous obséder non plus là-dessus.
En attendant d'avoir le plaisir de revoir Pâquerette, d'autres rendez-vous en perspective. Les 24 et 25 novembre, François Chéniaud sera chez Madame Arthur à Paris. Puis du 30 novembre au 2 décembre, Radio Vinci Park, mise en scène par Théo Mercier, se jouera à la Ménagerie de Verre, toujours à Paris. Sans oublier, Romance Inciertos, un autre Orlando avec Nino Lenné, à voir le 15 décembre à Metz, puis le 22 décembre à Nanterre. Toutes les dates des pièces de François Chéniaud, et elles sont nombreuses, à retrouver sur son site www.vlovajobpru.com.
Merci Céline pour cette entrée. François Chéniaud, de l'Encyclopédie pratique des mauvais genres, dont je rappelle qu'elle a fait l'objet d'un magnifique ouvrage aux éditions. Certains ne l'ont pas encore, vous vous rendez compte?
Il paraît.
Surtout, soyez sérieux. Écoutez, lisez les livres de Céline Duchesnay. Est-ce qu'on vit dans l'oubli du périnée à mauvais genre, monsieur?
Certainement pas. Après notre numéro sur le fist fucking et les boules de geisha.
Je ne suis pas sûr qu'on ait mentionné le périnée lors de notre émission sur le fist fucking.
On va demander à Hervé Aubron, est-ce qu'on a mentionné le périnée, Hervé Aubron?
Je m'en souviens pas, non, mais c'est important, c'est vrai, le périnée.
Ben oui.
Bien, bon, en tout cas, nous restons...
On peut peut-être rappeler quand même, François, que la semaine prochaine, il y aura une signature de nombreux auteurs de l'émission Mauvais Genre.
J'ai une abondante chose à signaler. On peut le faire en début d'émission, et on continuera en fin d'émission. Nous signons. Vous signez vos œuvres, Christophe Beer et peut-être moi aussi, peut-être, je ne sais pas.
Moi, voilà. Mon âne que vous l'achetez en librairie et vous venez me voir pour le signer ailleurs.
On s'arrangera.
Salon du livre Radio France, c'est
samedi prochain,
de 17h30
à 19h.
Et puis après, c'est le sabbat, c'est la fiesta, mais ça, on vous en dira un peu plus tout à l'heure, puisque nous fêterons en grande pompe nos 20 ans au Studio 104 le 25 novembre à 20h30. Mais n'allons pas trop vite en besogne, puisque maintenant c'est l'heure de découvrir bien le plateau, l'univers, le monde, les personnages de Jean-Pierre Melville.
Thank you.
la BO de Deux Hommes dans Manhattan, 1959, de Jean-Pierre Melville, avec Melville comme acteur et New York
en fond
de décor, en présence envoûtante de la ville éternelle, si j'ose ainsi m'exprimer. Les deux hommes enquêtent sur la disparition d'un diplomate. Alors, centenaire de Jean-Pierre Melville, je le rappelle, centenaire de sa naissance, et comme pour Clouzot, Philippe, abondance d'événements qu'il nous faut signaler.
Voilà, alors il y a abondance de publications. On a un coffret DVD ou Blu-ray, il y a les deux versions, chez Studio Canal, avec 12 des 14 films de Melville. Quand on dit 14, c'est, en fait, il y a 13 longs-métrages et un court-métrage, 24 heures de la vie d'un clown. Donc, les deux qui manquent, bah, c'est un peu comme avec Clouzot, celui qui manquait, bah, c'est celui qui est tenu par un éditeur DVD parisien qui refuse de marcher avec ses camarades, qui refuse de restaurer ses films. Et donc, L'aîné des fers chauds et Le deuxième souffle, bah, vous pouvez toujours les voir, mais sur des DVD tout pourris, alors que les autres, roulent carrosse. Les choses sont claires. Les autres ont été restaurés, passés de là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, François? J'invente pas les choses. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce coffret, un certain nombre de films existaient déjà à l'unité en Blu-ray. Par exemple, L'Armée des Ombres, dont on va parler tout à l'heure, était ressorti il y a un an. Donc c'est évidemment la galette à l'identique, de même pour le Cercle Rouge. Mais il y a un certain nombre de films qu'on n'avait pas en Blu-ray, qu'on a restaurés. C'est Bob le Flambeur, Léo Morin-Prêtre, Le Doulos, Quand tu liras cette lettre, et Un flic, hein. Voilà, donc c'est les grandes...
Quand tu liras cette lettre, quand même, le film de Melville qui a disparu des mémoires, c'est quand même un
oui,
film...
Oui, parce que, c'est aussi la faute de Melville, parce qu'il a fait ce film comme un, si vous voulez, comme une carte de visite. Ce film, c'est le troisième qu'il réalise, après Le silence de la mer, après Les enfants terribles, qui sont des films très à part dans sa filmographie, qui sont des adaptations littéraires, qui sont tournés dans des conditions... très entre le professionnalisme et l'amateurisme. Donc, il doit montrer à la profession cinématographique qu'il est capable de faire un film normal, dans des conditions normales, avec un budget normal. Donc, il prend un scénario qu'il n'a pas écrit, et
oui,
l'idée...
C'est un film de commande. En fait.
Voilà, c'est un film de commande.
Il accepte une commande.
Il accepte une commande, et il prouve qu'il peut honorer une commande dans les délais, en faisant un travail propre. Et une fois que c'est fait, il dit, bon, ben voilà, vous avez compris, je suis un vrai metteur en scène, je suis pas juste un contrebandier qui fait des films comme ça. Donc, à moi les budgets, à moi de pouvoir faire des vrais films, etc. Et c'est là que, j'allais dire, Melville commence. Donc, c'est intéressant de voir ce film comme un témoignage. Le film n'est pas mauvais, il est juste pas très intéressant. Hervé
Aubron.
Oui, enfin, il est dispensable.
Voilà. C'est... il est pour les complétistes. Est pour les complétistes de Melville qui peuvent y trouver tel plan. Voilà, c'est...
Bon, et à la limite, on pourra en parler. C'est quand même un des rares films, avec Léon Morin-Prêtre, bien sûr, où une figure féminine est quand même centrale, pas vraiment mise en avant. C'est à ce titre aussi qu'il peut être...
Oui, effectivement,
dispensé.
C'est pas la caractéristique essentielle de son univers. Alors, on vient d'évoquer le somptueux coffret dans le Studio Canal.
Alors, il y a des suppléments, voilà, il y avait les suppléments qui existaient, et il y en a d'autres qui ont été créés. Ce qui est intéressant, c'est que il y a toutes les choses récentes sur Melville sont dedans. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choses anciennes. Par exemple, j'aurais bien aimé qu'on inclue le film de Labarthe, de Cinéaste de notre temps.
Très beau film.
Généralement, ça se retrouve dans les bonus.
Oui, qui n'est pas dans les bonus, voilà. Malheureusement.
Très beau film.
Par contre, il y a le film d'Olivier Boller, sous le nom de Melville, qui est vraiment la première bio filmée de Melville, vraiment d'investigation, qui date maintenant de 2008, qu'on avait présenté au Festival d'Angers, qui est très passionnant et qui est inclus là. De même, Dominique Maillet a fait un film très bien sur l'Armée des Ombres qui s'appelle Le Dessous des Cartes, un film d'une heure et demie qui était déjà dans le Blu-ray sorti l'an dernier. Voilà, ces choses récentes sont là. Et puis, il y a tout l'apport parce que cette année, on a profité du centenaire Melville pour créer, quand je dis on, c'est pas du tout moi, c'est les deux neveux de Melville qui sont Rémi Grimbach et Laurent Grousset, qui sont à la fois ses neveux et ses ayants droit, on crée la Fondation Melville. Mais la Fondation Melville, elle est créée aux États-Unis, en Californie. Et donc, ils sont très moteurs dans l'élaboration des bonus. Ils ont donné une masterclass, Labro et Grimbach, en février dernier à Canal, qui est intégralement là. Et puis, ils ont produit un certain nombre de bonus en donnant accès aux archives. Et c'est grâce à ça qu'il y a aussi... le livre d'Antoine Debecq.
Alors, parce livre d'Antoine parallèlement... Bebec, Au seuil, Jean-Pierre Melville, Une vie, qui est largement un livre, avant tout un livre de photos,
voilà, d'iconographie. Voilà, un livre de photos, c'est des photos des films, des photos de tournage, mais aussi des photos personnelles, enfin, des photos de famille. Et Antoine Debecq a écrit un texte qui est une sorte de, on pourrait dire, de légende augmentée des photos, quoi. C'est-à-dire que c'est un texte de présentation, c'est avant tout un très bel album, et on a un vrai plaisir à se balader là-dedans, à découvrir des choses qu'on connaissait pas. On voit Florence Melville qui fait la starlette. On voit Melville qui s'amuse à mettre en scène la promotion d'un de ses films. Donc, il a affrété des photographes, enfin, des acteurs qui font les photographes et lui se mêle à eux. Enfin, il y a comme ça des, et quand on aime Melville, c'est un vrai bonheur de découvrir tous ces clichés.
Donc, Antoine Debecq, c'est au seuil. Également, Bertrand Tessier chez Fayard, Jean-Pierre Melville, Le Solitaire, une préface de Philippe Labro. Là, c'est une biographie.
Voilà, et comme dit Philippe Labro, qui connaît bien Melville parce que c'était son mentor, il dit « j'en ai appris ». J'en ai appris en lisant Tessier, et c'est intéressant parce que Tessier a fait un gros, vrai travail de biographie. Alors Tessier, on ne le connaît pas comme critique de cinéma parce que ce n'en est pas un. Si vous voulez, il a fait aussi bien Alain Delon, Bernard Giraudot que Julien Clerc. Et maintenant, il fait Jean-Pierre Melville, ce qui n'empêche pas d'aimer les films de Melville. Mais ce qui est intéressant avec quelqu'un qui est peut-être moins impliqué que d'autres, c'est qu'il fait vraiment, il va voir les gens, quoi. Il va voir les gens, il a été voir tous les survivants, il a été voir Annie Mélan, qui a été le bras droit de Melville à la rue Génère pendant très longtemps. C'est quelqu'un qui est totalement dans l'ombre, dont ne parle jamais. Donc c'est très intéressant d'avoir des informations. Il a fait l'effort d'aller retrouver des scénarios. Alors, beaucoup ont été brûlés dans l'incendie des studios Génère, mais il produit un scénario du Samouraï, des extraits de l'Armée des Ombres qui ont été retouchés de la main de Melville. On sait très bien où sont ces documents. Il n'a pas fallu aller chercher loin. Ils sont à la Bifi pour la plupart. Mais c'est quand même très intéressant d'avoir été les chercher et de travailler un peu dessus. Il a retrouvé le procès-verbal de l'interrogatoire de Melville avec les troupes de De Gaulle en août 43 à Londres. C'est le volet résistance.
Voilà, donc un centenaire abondamment fêté, tant sur le plan vidéographique que sur le plan bibliographique. Je me permettrai d'ajouter à ces deux livres déjà cités un troisième, les entretiens avec Jacques Chancel, coproduction La Table Ronde, France Inter, l'INA. Il y a un article, la radioscopie de Jean-Pierre Melville, qui est retranscrite et dont on ne peut pas se passer si on veut vraiment connaître le personnage. Alors 1917-1973, donc date du décès de Jean-Pierre Melville, soudainement à table avec son ami Philippe Labro, une espèce de mort subite et fou. Les grandes étapes, pour rafraîchir les mémoires ou pour un petit peu débroussailler le terrain, Hervé Aubron, les grands moments de la vie de Melville, famille juive parisienne, d'origine lorraine, cinéphilie très précoce, la résistance, les studios, qu'est-ce qu'on peut...
Alors évidemment, le gros morceau, c'est ce moment, on en parlait juste avant l'émission, c'est effectivement une jeunesse effectivement précocement cinéphile, dans une famille plutôt aisée, cultivée. Enfin, c'est quelqu'un d'ailleurs, on pourra en parler, mais dans le personnage de Melville, je trouve qu'il y a toujours comme un hiatus entre son apparence et son goût pour, je dirais, la signalétique américaine, l'esthétique américaine, etc. Et une langue extrêmement, je dirais, distinguée, littéraire et d'avant-guerre. Enfin, quelque chose d'extrêmement articulé. Il y a évidemment toute cette période à Marseille, enfin, quand il va à Marseille, donc où il va à la fois observer le monde des malfrats, s'engager dans la résistance, même si donc cette période est un peu compliquée, on ne sait pas exactement toujours ce qu'il a fait, etc. Mais déjà aussi cette chose très curieuse, enfin cette confluence entre le monde des malfrats et celui des résistants, qui va évidemment entraîner beaucoup de choses dans les films. Mais ensuite, c'est quelqu'un qui va, en quelque sorte, dès 45, puisque le court-métrage dont parlait Philippe tout à l'heure, 24 heures de la vie d'un clown, qui est en fait une espèce de portrait d'un clown, c'est dès 45. Hein. Donc, et à partir de là, sa vie, c'est quand même essentiellement celle de cet homme qui va énormément travailler à fabriquer un personnage, on pourrait y revenir, un homme qui, je crois, était tout de même assez tourmenté. Et donc la biographie de Melville, c'est quand même très curieux, c'est une espèce de... Moi, Melville, je le vois comme une espèce un mélange entre pas Nosferatu, mais un vampire et le docteur Mabuse, un petit peu. Il est dans ses studios Génère. Et je veux dire, sa vie, il la rêve pour une large part, j'ai l'impression. Donc, je dirais, les moments fatigués, à partir de 45, Bah, il fait du cinéma.
Oui, et sa vie est un film. C'est-à-dire qu'il rêve sa vie. C'est-à-dire qu'il, c'est l'homme tout cinéma. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se fait construire une salle de cinéma. C'est-à-dire que à l'époque,
ça c'était quand même son obsession, voilà, ces fameux studios Jenner.
Voilà, parce qu'à l'époque on n'a pas de DVD, on n'a pas de VHS, rien de tout ça. Donc si vous voulez voir des films, il y a que les copies. Alors quand il est petit, il a le Pathé Baby, hein, et avec des résumés de films en format 9 mm ou Super 8 ou que sais-je. Mais si vous voulez vraiment avoir des films intégraux, donc il a une salle de projection qui est d'abord rue de Washington. Alors qu'il a ses studios Jenner, et puis après il va faire aménager une salle de projection rue Jenner. Alors, la rue Jenner, on en sait plus grâce à un article de mon camarade
à Paris dans le 13e arrondissement,
Jean-Pierre Berthomé, que j'ai commandé pour le dossier positif que j'ai coordonné dans le numéro de septembre.
C'est un événement du centenaire que nous n'avions pas mentionné.
Ben oui, ben j'attendais que vous le fassiez, mais comme vous le faites, je fais mon auto-promo avec cette idée de d'y voir plus clair. En fait, ces studios Jenner, c'était des locaux industriels qui appartenaient à une firme automobile de l'âge qu'il a acheté, donc rue Jenner, dans le 13e arrondissement. En gros, c'est 2000 mètres carrés, ce qui est pas très grand pour des studios. Hein. Et il en fait l'acquisition très tôt. C'est-à-dire que en 44, la légende, enfin c'est lui, parce que c'est ce que dit Hervé, c'est-à-dire que avec Melville, la légende est toujours proche de l'homme, parce qu'il s'est tellement raconté, c'est tellement un conteur que, alors donc il a raconté des tas de fois que c'est une nuit de 44, alors qu'il faisait la campagne d'Italie.
Monte Cassino.
Voilà, et qu'il oui. s'apprêtait, toi, il attendait le petit matin pour. Pour aller au front, qu'il s'est dit, si j'en sors, j'aurai mon studio. Et il semblerait qu'il ait acheté cette friche industrielle dès la fin des années 40, puisque, d'après Berthomé, les scènes de bataille de boules de neige dans Les Enfants Terribles, 1949, seraient faites sur le lieu des studios de la rue Jenner, qui sont construits en 53 et qui sont réaménagés en 53, et qui vont être opérationnels en 56 pour Bob le Flambeur. C'est-à-dire qu'il va mettre 3 ans, parce que il faut quand même gagner de l'argent, notamment grâce à quand tu liras cette lettre et à d'autres choses, pour pouvoir aménager ça. Et donc, Bob le Flambeur 56, tous les intérieurs sont tournés rue Jenner. Et les studios de la rue Jenner, c'est 56-67. C'est-à-dire que les studios vont prendre feu pendant le tournage du Samouraï. Ce qui est un vrai problème pour le film, parce que c'est les décors du film qui brûlent avec. Des mauvaises langues, on dit que c'est lui-même qui avait foutu le feu pour toucher les assurances. C'est pas vrai.
Ou, j'espère.
Non, mais où on sait que c'est pas vrai, en tout cas, c'est pas pour toucher les assurances, puisque sa femme, Florence, oui. qui était chargée de toute l'administration, parce qu'évidemment, quand on rêve le cinéma, on peut pas non plus être dans la paperasse, et donc Melville avait oublié de renouveler l'assurance. Donc cette opération a été catastrophique. En fait, je veux dire, ce sinistre a été un vrai sinistre, parce que outre la perte des scénarios, des archives,
etc., toutes les archives Melville ont disparu.
Et il n'y a pas eu de, remboursement. C'est grâce à François Lamotte, qui était décorateur et qui était un très très grand décorateur du cinéma français à l'époque, qui avait travaillé avec De Broca, De Ville, avec vraiment tous les cinéastes un peu importants dans les années 60 en France, qui a pu avoir à un tarif très concurrentiel la possibilité de reconstruire tous les en studio à Boulogne. Il faut dire que les décors de Melville sont très minimalistes, y compris rue Jenner, parce que les studios de la rue Jenner, il y a deux plateaux, un qui fait 104 mètres carrés et l'autre 406 mètres carrés, ce qui est rien du tout. Simplement, il y a une grande hauteur de plafond, et donc il y a 10 mètres de plafond, donc on peut installer une passerelle avec les projecteurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout ça... Il travaille avec des feuilles de décor. Si vous avez vu le film de Bertrand Tavernier, Voyage à travers le cinéma français, il y a un petit quart d'heure qu'il consacre à Melville, et notamment, il y a une séquence formidable sur les studios de la rue Jenner, où il montre comment Melville a réutilisé...
Restructure en permanence.
À chaque fois, c'est-à-dire que Melville, l'homme de la légende, je suis depuis Pagnol, je suis le seul cinéaste français à avoir son studio. Ce qui est vrai. Mais le studio est minuscule. En fait, il y a aussi Cousinet à Bordeaux. Et Cousinet, il y a une grande... Mais
bon, c'est voilà, pas tout à fait le même cinéma.
Neville Cousinet étant ce qu'il est, voilà. Mais il y a un moment où il a espéré louer son studio. Et en fait, très vite, ça va pas se faire parce que les derniers films qui vont louer le studio de la rue Génère, c'est 62, parce que le cinéma français ne veut plus être en studio. Et ce qui est très intéressant, c'est que...
C'est l'un des paradoxes, oui, de Melville et de son rapport avec la nouvelle vague.
Ben voilà, c'est... et ce qui est très intéressant, c'est son rapport au décor. C'est-à-dire que, comme il est dans un espace exigu, c'est très stylisé. Et du coup, ça amène une esthétique très particulière. Et finalement, on n'est pas si loin que quand il fait le silence de la mer dans la maison de Vercors, où finalement... tout est dans l'éclairage expressionniste et tout est dans une espèce de stylisation presque noir et blanc.
Culture, mauvais genre, François Angelier.
Alors, on évoquait le silence de la mer, le deuxième film important de Melville sur cette période d'occupation à Vaubron, c'est donc L'Armée des Ombres, tiré de Joseph Kessel. Alors là, quelle est la manière dont Melville témoigne de cette époque qu'il a connue, comme acteur et comme témoin?
C'est un film qui reste, L'Armée des Ombres, c'est un film qui d'un certain point de vue a été longtemps un peu maudit, bizarrement. Puisque ça a définitivement créé le divorce entre lui et la Nouvelle Vague. Bon, il faut se rappeler quand même que notamment Melville apparaît quand même dans À bout de souffle, par exemple, dans le rôle d'un personnage. Mais je veux dire, évidemment, en 69, L'Armée des Ombres apparaît comme un film gaulliste. Qui est descendu en gros par toute le courant, la veine Nouvelle Vague, et on ne voit qu'un côté monumental, mais c'est limite, on dit c'est Paré-Brulti, alors que ça n'a rien à voir avec cela. Et ensuite, je dirais qu'il est encore maudit, parce que c'est un peu, on pourra en parler, mais c'est un peu le film typique dossier de l'écran, notamment parce que la musique peut l'évoquer, mais alors que ce film, qui est par la force des choses un des premiers Melville souvent qu'on voit, enfin moi ça doit être le premier Melville que j'ai vu à la télévision, c'est un film qui reste assez démentiel en ceci que d'abord c'est un film qui s'inscrit pleinement dans toute sa, enfin je veux dire c'est pas un film atypique finalement malgré ce côté a priori de reconstitution historique que sais-je. Ce qui est frappant je trouve dans ce film précisément, c'est que c'est un, surtout quand on compare d'ailleurs avec le livre de Kessel, parce que sont deux objets très différents, même s'il peut être fidèle à certains aspects du livre. Ce que je trouve magnifique, c'est que c'est tout sauf une reconstitution historique. C'est que c'est, moi, j'y vois presque plutôt de la déconstitution historique. Ce qui est très fort, je trouve, c'est que c'est un film. D'ailleurs, plus ça va, plus ça va être le cas. Mais c'est presque un film fantastique pour moi, L'Armée des Ombres. En ceci qu'on retrouve des choses qui vont vraiment s'accuser ensuite dans la trilogie de Long a déjà été entamée avec le Samouraï, mais je veux dire, ça, il ne va ne faire que creuser ça. Mais évidemment, c'est là depuis longtemps dans son cinéma, mais là, ça va vraiment s'accuser. C'est-à-dire quand même, c'est censé être une grande reconstitution historique. On ne voit quasiment aucun nazi, si ce n'est ce fameux défilé militaire sur les Champs-Élysées, qui est une espèce comme ça de
voilà, officier.
On ne voit quasiment pas de figure français moyen. On a ces espèces d'ombres, précisément, mais qu'il faut prendre au sens propre. Ce sont des ombres de la résistance, mais ce sont des fantômes, c'est ça qui est magnifique. Notamment, il le dit au début, enfin, tout évoque, sont des morts vivants. Et c'est ça qui est, je trouve, là, il touche à quelque chose. Il résiste à la reconstitution historique, c'est un film sur la résistance, mais qui résiste au côté antiquaire de la reconstitution historique. Et pour moi, alors même, c'est là que la critique s'aveugle, et aussi le public quand même, parce que c'est bizarrement, c'est pas du tout le plus grand succès bizarrement.
Qui a été le Cercle Rouge.
C'est le Cercle Rouge, son immense succès. Mais ce qu'on ne voit pas,
le film marche pas mal quand même.
Il marche pas mal, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est un film sur les fantômes, en effet, et que évidemment au même titre qu'un flic ou le samouraï. Ce sont des personnages de fantômes. Mais ce qui est donc très beau, c'est que c'est à la fois un film éminemment, évidemment, c'est pas un film historique, je dirais, au sens propre, c'est plus une espèce de caveau, je dirais de tombeau au sens propre. C'est un film évidemment marmoréen, froid, avec aussi cette chose que...
Froid, je suis pas d'accord.
Enfin, froid.
Et pas froid.
Dans les teintes, je veux dire.
Dans les teintes, oui.
Mais et surtout, là où il est très fort, mais comme on le voit dans tous ses films terminaux, je dirais, c'est sur son usage de l'ellipse. Évidemment, sur l'ellipse au sens de ces personnages qu'on pourrait dire dépersonnalisés, enfin ces silhouettes atones qu'on pourrait dire bressoniennes, même si ça l'énervait beaucoup qu'on évoque Bresson. Mais par ailleurs, l'ellipse au sens où l'ellipse temporelle et aussi l'ellipse spatiale. C'est magnifique la façon dont on va d'un lieu à un autre, et j'y reviendrai peut-être plus tard, mais c'est la figure du réseau au sens le plus large.
Absolument. Ce qu'il avait comme terme pour, je suis évidemment d'accord avec tout ce que vient de dire Hervé, ce qu'il avait comme terme pour définir son film, il disait que c'était une rêverie rétrospective. Et je crois que le mot est exact, parce que il a fait la résistance, il s'est retrouvé à Londres, il disait, il y a 2 minutes autobiographiques dans le film qui sont les 2 minutes où il se balade avec le personnage de Meurice.
Oui, qui joue de Jean Moulin.
Voilà.
Mélangé à Cavaillas, sa femme mathématicienne.
Et voilà. Et parce que lui, quand il a été à Londres, il a réussi à voir, c'est Tessier qui le rappelle dans son, il a réussi à voir 27 films. Il a vu 27 films américains en une semaine, dont Autant n'importe le vent, hein. Et il y a cette phrase qui disent dans, c'est Ventura qui dit ça dans, hein, la guerre sera finie quand les Français pourront voir ce très beau film. Et donc, il y a que 2 minutes autobiographiques, mais il se projette dans tous les personnages. Il se projette dans tous les personnages parce que chez Melville, il y a toujours eu cette nostalgie de ce moment du feu. C'est-à-dire qu'on est dans la guerre, c'est terrible, il y a des horreurs, mais il y a une espèce de solidarité et d'exaltation, et c'est ça. Mais sauf que dans le film, cette exaltation est éteinte. C'est-à-dire qu'on est dans un réseau, les résistants... Le film ne dure que sur 4 mois, et ça commence le 20 octobre 1942, l'histoire, soit le jour de l'anniversaire de Melville. Je veux dire, c'est pas négligeable, hein. Et ce qu'on va les voir faire, c'est transporter des tracts, essayer de s'évader, mais il n'y a jamais d'action d'entreprise. La seule action un peu conséquente...
L'évasion, la tentative d'évasion.
Qui est l'évasion de Lyon, hein, où on cherche à évader un camarade, à faire sortir un camarade qui est emprisonné.
Et puis tout de même, la mise à mort du donneur...
Mais juste, cette évasion est un échec, Hervé. C'est-à-dire que la seule entreprise qu'on montre est un échec, avec quand même l'idée qu'on utilise pour les portes de la forteresse...
Verrous.
Le verrou, le coffre-fort. Oui,
qui revient. Voilà.
Le coffre-fort qui est dans Bob le Flambeur. Je veux dire, Françoise Bonneau, la monteuse, me l'a dit. C'est le même son qu'elle a été.
Aussi dans le Cercle Rouge, dans le casque du Cercle Rouge, c'est le même verrou.
Qui est après. Ouais, après. Voilà. Et l'autre action, c'est quand on doit assassiner un donneur, qui est Alain Motté, qui est mort la semaine dernière. Un dernier salut à Alain Motté.
Et salut.
C'est la moins noble.
Par exemple, pour moi, cette exécution quand même qui a beaucoup évidemment marqué, c'est une séquence que je trouve quand même incroyable à revoir, parce qu'il y a quelque chose qui tient là encore. Ils sont en train de perdre même leur humanité dans cette histoire. C'est-à-dire que ce qui est magnifique, c'est qu'ils se trucident eux-mêmes dans la séquence. Et il y a quelque chose aussi de l'ordre des vampires, hein, malgré eux, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose de grandiose sur la dévitalisation, quoi. Et quand même, là où il est quand même très fort sur son art de la silhouette, c'est que, évidemment, la résistance, cette question du réseau, de la dépersonnalisation, enfin, je veux dire, des silhouettes interchangeables, c'est quelque chose qu'il a dû, évidemment, apprendre dans la résistance, et il le filme en acte.
Faut pas oublier l'exergue du film. Un mauvais souvenir, soyez les bienvenus, vous êtes ma jeunesse lointaine.
Qui est de Courteline. Mais vous voulez pas qu'on le dise, parce qu'effectivement, Courteline, ils ont apporté là un sourire, un esclaffement qui n'était pas véritablement celui de l'armée des ombres, la période de l'occupation, donc le silence de la mer, ce film dont nous venons de parler.
Et puis aussi Léon Morin.
Voilà, Léon Morin. Et puis un quatrième film, qui est lié à l'histoire de l'occupation, mais plus par son personnage principal que par son thème.
Quatre serrures, quatre combinaisons, ascenseur hydraulique. Chut, ça va pas être de la tarte. Hein?
Quoi?
Tiens. Alors, ça y est, on y est ce coup-ci dans la musique, le champagne, les boîtes de nuit. Hein?
J'ai pas de monnaie.
Ça ne fait rien. Merci.
Merci.
kilos. Elle ira loin. C'est ce qu'elle veut sans en avoir l'air.
Peut-être pour la future Madame Polo. Viens, on va faire un tour.
Il faut que je surveille.
Il préfère être seul. Viens.
Qu'est-ce que tu veux?
Je t'attends.
Au mieux pas, j'en ai pour longtemps.
Bob le Flambeur qui ouvre toute la série des films de Melville sur le milieu qui le fascinait sans doute le plus, c'est-à-dire le milieu du milieu, c'est-à-dire les truands, Pigalle, avec quand même une récurrence obsessionnelle du plus petit objet jusqu'au thème général qui est quand même extraordinaire, les trenches, les chapeaux, les flingues, les voitures, la nuit, les boîtes de nuit. Cette boîte de nuit, on a l'impression que c'est la même qu'on revisite saison après saison. Là, véritablement, c'est ce qu'il reprochera bien sûr d'Alain Delon, une fascination mais halluciné presque de Melville pour le milieu des truands.
Voilà, et un milieu qui est totalement fantasmé. Mais voilà. Ça, il l'a toujours dit lui-même. Il a dit, moi, le milieu, c'est comme les cours européennes chez Shakespeare. C'est-à-dire que c'est un lieu de tragédie. Avec quand même des choses réalistes. C'est ça qui est très intéressant chez Melville, c'est qu'il y a toujours un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire que en même temps, il y a cette phrase qu'on entend dans Bob le Flambeur, où il dit, ouais, salaud, t'as appris ton métier, Ulleriston, à propos d'un policier. Alors Ulleriston, vous savez que c'était le siège de la Gestapo. Et c'est vrai que pour Melville,
Gestapo française, la carlingue.
Voilà,
la
bombe. Pour Melville, on revient toujours à ce moment-là.
Il y a un fond modianesque dans le Paris de Melville, de toute façon.
Absolument. Et parce que ce qui est vrai historiquement, c'est que dans ce moment-là de l'histoire de la France, les cartes ont été redistribuées. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait les truands et les policiers, et après, ça a été plutôt les Gestapistes et les résistants, ou les neutres. Et donc, à partir de là, tout est différent. Mais évidemment, pour Melville, ça ajoute au rêve. Sinon, si on revient à Bob le Flambeur, on s'aperçoit que, si on compare Bob le Flambeur, son premier polar, à Un flic, son dernier film, et on s'aperçoit que c'est une marche en avant vers l'épure. C'est-à-dire que dans Bob le Flambeur, il y a encore la tentation de vouloir...
De la gouaille.
Voilà, la gouaille.
Auguste Le Breton, hein, le dialoguiste. Hein.
Et il le regrettera après. Il le regrettera après, si bien que quand il fera le deuxième souffle, d'après Giovanni, il dit, surtout, je retraduis tout ce qu'a écrit Giovanni en langage argotique, qui est le langage des truands, moi je le mets, j'allais dire, en bon français. Parce que c'est ce qui vieillit le plus vite.
Confère le début extraordinaire du deuxième souffle, on n'en parle pas puisqu'il parle dans le coffret, bon, et qu'on attend un véritable Blu-ray, c'est l'extraordinaire morceau de bravoure de Paul Meurice, qui joue le rôle du flic et qui arrive dans la boîte où un crime vient d'avoir lieu. Évidemment, comme toujours, dans les boîtes de truands après un attentat, personne n'a rien vu. Et la manière dont Meurice s'adresse à l'un puis à l'autre, en jouant son jeu tout en se moquant de lui, c'est extraordinaire.
Filmé dans un plan séquence de 9 minutes.
Et là, on est dans une tirade théâtrale. Et peut-être c'est la seule du film.
Oui, mais le théâtre est toujours au cœur du cinéma de Melville. Et plus ça va aller,
plus de l'absurde. Quand
plus
même.
Ça va être. Oui, voilà. Oui, mais il y a une théâtralité qui est de plus en plus affirmée. Alors, ce qui est très intéressant dans Bob le Flambeur, c'est que donc, tous les décors sont très stylisés et sont ferrugénaires. Et en même temps, il va tourner réellement à Pigalle. On voit la place Clichy, on voit vraiment les devantures de boîtes de striptease. Et donc.
Évidemment, la nouvelle vague là, prend ça. Enfin, voilà. Je veux dire, évidemment, on l'entend d'ailleurs dans la bande son. On pourrait dire, tiens, ça pourrait être un Godard, après tout, pourquoi pas de l'époque.
Jusque dans l'utilisation de la voix off.
Ouais.
De la voix off et de l'interconnexion entre ce que disent les personnages, et c'est lui qui fait la voix off. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une volonté de se poser comme auteur.
Moi, ce que je trouve frappant quand on voit Bob le Flambeur, alors effectivement, comme le dit Philippe, et on le voit bien, effectivement, Bob le Flambeur installe la mythologie melvillienne type, les silhouettes, les chapeaux, etc. Mais on voit bien qu'il y a un monde entre Bob le Flambeur et Un flic, l'ultime film de Melville. Ce que je trouve très intéressant, c'est que clairement, et d'ailleurs il le dit lui-même, il dit qu'il est passéiste, etc., Bob le Flambeur, c'est un monde qui s'éteint. C'est le Pigalle d'avant-guerre, sa gouaille, etc. Et d'un certain point de vue, bien sûr, Melville le regrette. Et ce qui est quand même passionnant, il le regrette, mais en fait, lui-même, en allant dans l'épure, va devenir précisément, il va aussi montrer, c'est le grand cinéaste de la zone, du terrain vague, et aussi des grands ensembles. Hein. C'est quelqu'un qui va montrer précisément la transformation, je dirais le commissariat au plan, pour faire un mauvais jeu de mots, mais qui règne dans la France des Trente Glorieuses. C'est quand même magnifique pour voir la France gaulo-pompidolienne, pour dire vite. Et c'est un monde qu'il déteste, et en même temps, il en sera sûrement un des plus grands cinéastes, au même titre d'ailleurs qu'un autre, moi ça me frappe, c'est Tati. Vous prenez Tati, mon oncle, c'est mon oncle d'Amérique. Pardon, mon oncle, c'est Bob le flambeur voilà. de Tati. Et c'est pareil, Tati regrette aussi la disparition d'un monde, et en même temps, il va être le plus grand playtime, etc., le plus grand cinéaste des grands ensembles. Voilà, et donc, il y a quelque chose là, chez Melville que je trouve passionnant là-dedans, c'est qu'à la fois, c'est ce qu'il est, et c'est ce qu'il adore, c'est ce qui le fascine, parce que c'est un grand styliste, c'est un grand formaliste, donc ses trames, etc., bien sûr, exemplairement, dans le final de l'ouverture pardon, d'un flic, cette incroyable casse, dans une complètement géométrique, hein, c'est une des plus grandes. Enfin, moi, c'est quelque chose de. Hein, se casse dans une station balnéaire déserte, c'est Saint-Jean-de-Mont, hein, si je me souviens bien.
On peut dire à nos auditeurs, on est un jour de tempête, de très grand vent à Saint-Jean-de-Mont, et sur le front de mer, et il y a une barre d'immeubles énorme qui va pratiquement à l'infini, où toutes les fenêtres sont peintes de frais et sont fermées.
C'est du Mondrian.
Donc c'est quasiment, c'est d'une abstraction totale. Et
il adore ça, bien sûr. Il adore ça, alors même que c'est précisément ce qu'il. Aussi la France, c'est aussi la France qui recouvre celle qu'il a perdue. Donc il y a quelque chose là, je trouve, de très beau là-dedans. Dernière chose, juste, là je parlais du réseau, c'est ça que je trouve fascinant chez lui. Et quand je parle de Tati, il y a quand même quelque chose entre
bien
les
sûr.
Deux. C'est que, évidemment, c'est quelqu'un qui va devenir de plus en plus le cinéaste des baies vitrées, du métal, mais aussi, je parlais du réseau de résistance, mais aussi le réseau des techniques, hein, les boutons. Il y a une obsession pour les téléphones dans les voitures, les boutons, le contrôle, etc., les enregistreurs. Et il y a quelque chose, je trouve, d'assez incroyable là-dedans, parce que c'est quelque chose précisément qui le fascine. Lui-même passait son temps au téléphone, visiblement, il y a ce côté docteur Mabuse. Et je trouve que c'est un très grand cinéaste aussi du quadrillage comme ça, urbanistique, mais aussi technologique dans la France qui
et,
avance.
Et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'en poussant comme ça vers l'attraction, le monde devient un labyrinthe. Et c'était déjà très flagrant dans L'Armée des Ombres, où en fait,
on ne sait plus
où on est, et on est presque dans l'univers mental des personnages.
Bien sûr.
Et ce travail, il le fait avec les intérieurs, c'est-à-dire que il va aller de plus en plus dans l'abstraction des intérieurs. Regardez dans Le Samouraï, on ne sait pas comment communique, alors que lui, c'est le roi des trajets en voiture. Il y a un moment où on n'arrive plus à comprendre comment communiquent les intérieurs de l'un à l'autre. Et puis, il y a ces couloirs avec ces toiles quand on est chez le collectionneur. Et petit à petit, ça devient un monde mental. Et il arrive à annexer les extérieurs réels en un monde mental. Le contraire de Bob le Flambeur. Bob le Flambeur, il y a encore une tentation presque documentarisante. Qu'est-ce que le milieu? Et petit à petit, il va effacer ça, et si on va à Saint-Jean-de-Mont, on ne retrouvera pas cette impression.
Non, il n'y a plus maintenant que des grands ensembles, ou La Zone, c'est un très grand cinéaste de La Zone.
Et
de La Friche.
Son studio génère, c'est une friche.
Et ce qu'il aimait... nulle part, d'ailleurs, visiblement, il était au milieu de nulle part, il n'y avait rien autour
de lui. C'est ça qui lui plaisait. Et ce qui lui plaisait pour se détendre la nuit, c'était d'aller faire des tours de périphérique, en bagnole. C'est très marrant, quoi. C'est-à-dire que c'est alors que on pourrait dire Paris la nuit, son monde de boîtes de nuit, etc. Mais non, c'est pas ça qui l'intéressait. Et par contre, il faut bien comprendre que ce qu'il aime, c'est la stylisation. Mais où on se trompe, c'est quand il dit qu'il reprend les modèles des films américains. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai que les fenêtres à guillotine, on les a dans les films américains et que c'est plus américain que dans les films français. Mais quand il dit que le commissariat du Doulos, il reprend celui des lumières de Carrefour de la ville de Mamoulian, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Simplement, il a construit son truc en verre pour pouvoir faire le fameux panoramique à 360 degrés avec le commissaire Klein qui interviewe Cillien. C'est ça qui l'intéresse dans le Doulos. Et après, il vend ça comme étant de l'Amérique pure.
Oui.
En fait, c'est pas de l'Amérique, c'est de la stylisation.
Mais là, il se mystifiait lui-même sur ce côté-là. Parce qu'effectivement, il y a eu quand même toujours ce fantasme jusqu'au bout de vraiment tourner dans le système des studios américains, quand même.
Oui, mais
visiblement.
Il s'en est toujours détaché. Et quand il fait l'aider des fers chauds,
d'après Belmondo et
un film très
Charles
bizarre.
Vanel,
toi, il décide d'un banquier de pas emmener, en cavale. Alors que c'est un road movie aux États-Unis, il décide de pas emmener ses comédiens aux États-Unis. Donc il tourne avec des doublures, il tourne
au Salaire de la peur en Camargue.
Et après le reste, c'est tout dans l'arrière sud.
En plus, il a fini le film sans eux. Il a réussi quand même à se parce que bon, on n'a pas trop parlé de ça, mais c'était quand même un grand pervers, hein, visiblement, dans son rapport avec les acteurs. C'est-à-dire qu'il y a ce côté à la fois très affable dans les entretiens, etc. Visiblement quand même. Il adorait manipuler les acteurs. Il y a le fameux coup de Ventura dans le deuxième souffle quand il accélère le train que Ventura peut pas monter. Mais par exemple, l'aîné des fers chauds, visiblement, il a quand même réussi à il a été très dur avec Vanel, Belmondo a pris sa défense, il a dû finir le film sans eux, quoi. Alors, donc, il fait un film encore plus bricolé, c'était vraiment un drôle de personnage. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec Philippe, il faut voir le portrait par André Labarthe dans le cadre de Cinéaste de notre temps, qui est un très beau film où il cabotine à fond dans son registre Melville, mais il y a des choses très belles, notamment d'ailleurs sur sa maison aussi à la campagne, il insiste beaucoup sur son côté oiseau de nuit, vampire, etc.
C'est un où très beau film. Où il avait installé ses tables de montage.
Ouais, ouais.
Voilà la musique d'Éric de Marsan pour le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, notre sujet de ce soir dans Mauvais Genre sur France Culture. On termine en parlant évidemment de l'incarnation du cinéma melvillien. Messieurs, l'abstraction, le silence, l'épure, le samouraï, Alain Delon.
Alain Delon, c'est le samouraï, 1967, avec ce film qui s'ouvre sur une citation du Bushido, hein, sur la solitude...
du guerrier, égale à celle du tigre dans la jungle.
Peut-être. Et qui est totalement inventé par Melville, comme la plupart des citations qu'il met au début de ses films. Et alors, mais l'histoire est formidable. C'est-à-dire que, on sait qu'au début des années 60, il avait déjà voulu travailler, au moment du Doulos, il avait déjà voulu travailler avec Delon, qui lui avait dit que non, que son avenir était américain, et qu'il avait pas le temps avec des cinéastes français. Bon, entre temps, évidemment, Melville est devenu Melville, et Delon a vu ce que pouvait être une carrière américaine. Voilà. Donc, les deux hommes étaient faits pour se rencontrer. Ça tombe d'autant mieux que, comme l'a dit Hervé, il vient de se fâcher avec Belmondo.
Avec Belmondo et Ventura.
Et Ventura. Donc, il n'y a plus beaucoup, comme il aime les stars, et il a besoin des stars. Parce que, je veux dire, son cinéma s'alimente de ça. Delon, il vient chez Delon pour lui lire le scénario, parce que ça se passait comme ça, comme chez Ventura, on n'envoyait pas, on venait lire le scénario, et au bout de 7 minutes, Delon l'arrête en disant, voilà, ça fait tant de minutes que vous lisez, et il n'y a toujours pas de dialogue, je vais faire le film. Et comment vous voulez l'appeler, le samouraï? Alors là, Delon le ferait rentrer dans sa chambre.
Oui, évidemment qu'il a un katana ou je sais
voilà,
pas quoi.
Voilà, ça, Delon n'a jamais raconté ça. C'est Melville qui le raconte, et l'histoire est tellement belle qu'on ne sait pas si c'est vrai. Mais en tout cas, c'est vrai que il réinvente le personnage de Delon à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il va, si on suit les incarnations du personnage de Delon, qui a beaucoup travaillé avec Visconti, Clément, etc., là, tout d'un coup, il y a autre chose. Il y a autre chose, et en trois films, Le Samouraï, Le Cercle Rouge et Un Flic, qui est vraiment le film mal aimé, mais tous les trois, ce soir, on adore Un Flic, évidemment. Et ce qui est formidable, c'est que dans Un Flic, il va de l'autre côté de Delon. Il accepte d'être le policier.
Oui, le policier, d'ailleurs, dans une logique comme ça de silhouette interchangeable, il y a aussi cette idée qu'évidemment, il y a un effet de miroir entre les flics et les... Bon, ça, c'est pas propre à Melville, mais quand même. Bah, Delon, évidemment, il y a ce côté, cet extrême... il travaille le physique de Delon au couteau, hein, cette silhouette extrêmement dessinée, ce visage extrêmement dessiné. Et il y a aussi, bien sûr, quand même quelque chose... crypto... il y a une attirance pour Delon, enfin, on crypto a beaucoup gay. Parlé de l'arrière-fond un peu crypto-gay, voilà, et toujours ces scènes de cabaret où les femmes deviennent des mannequins, mais Delon est lui un mannequin, il y a un objet comme ça. Dans Un Flic, on a beaucoup insisté fantôme. Sur le fait qu'un de ses indiques était un travesti, et il y a une scène assez forte entre Delon et ce travesti.
Que la vraie femme, c'est le travesti et non Catherine Deneuve, voilà, c'est ce que les gens disent dans Un Flic.
Donc, bien sûr, Delon... Bon.
Voilà, Delon qui aura accompagné Melville pendant trois films. On parlait de la mythologie de Melville, du personnage Melville battu à coups d'accessoires, d'objets, effectivement. On retrouve Melville, mais sous une manière sans doute un peu différente dans certains autres films français.
Nous serons les pionniers des grandes transhumances. Tous les prolos en charter le vendredi soir. Retour le lundi matin quai de Javel ou au Creusot, avec des souvenirs de pêcheurs de requins.
Ou de pêcheurs de perles.
Sans vouloir vous contrarier, la perle se pêche plutôt aux îles de la Sonde.
Mais nous irons.
Vous avez raison, nous irons partout, à Zanzibar.
Au Galapagos.
Dans la baie d'Along. Le cri des cormorants le soir, sur les joncs. Croix, croix, croix.
Sans vouloir vous contrarier, ça c'est plutôt le cri du perroquet bleu du Mato Grosso.
Le cri du cormoran, c'est...
Voilà, apparition subite et impromptue du cri du cormoran de Michel Audiard. Ou Hervé Aubron, eh bien, il y a Melville apparaît à la fin, habillé en Paul Meurice, au contraire.
Ouais, il y a une espèce de pic, de parodie de Melville, interprété par.
Avec le Stetson, les Ray-Ban, debout dans une voiture.
Mais d'un certain point de vue, quand même, c'est les Antilles. C'est l'anti-Audiard, Melville. Enfin, il y aurait beaucoup
à dire. C'est pour ça qu'on termine par cette citation et qu'on termine, mauvais gens, bien évidemment, par Christophe Beer.
L'Inconnu, porno réalisé par Alain Payet en 1981, proposait une séquence d'intense obscénité. Catherine Ringer, Walkiri terrassant sur un carrelage noir et blanc le nain antillais Désiré Bastaro, l'étouffant, gobant ses orteils menus, essorant son phallus. Grandiose moment qui suscita récemment le court-métrage « Chevaucher un nain noir », relecture poétique des éroticiens, duo créé à Strasbourg en 2015, fondateur de l'ouvroir d'érotique potentiel. Au moment crucial où les libertés se restreignent, où l'obscurantisme gagne et quand même les artistes pratiquent l'autocensure, affirme-t-il avec justesse, ils poursuivent leur pataphysicienne célébration d'un héros libre, usant de la citation et du pastiche. Ainsi, leur plaquette élégante sur verger ivoire, à très faible tirage, reprend le principe de l'ouvrage titré 1929, mythique et provocante parodie de calendrier avec des textes de Louis Aragon pour le premier semestre et Benjamin Perret pour le second et quatre photographies sexuellement explicites de Man Ray illustrant chaque saison et dont le modèle féminin pourrait être Kiki de Montparnasse avec le photographe lui-même. Édité par Pontevecchio Éditions, 2016 même, c'est le titre, reprend cette posture scandaleuse d'avant-guerre pour proclamer la résistance des éroticiens à l'autocensure. Germain Reuss se charge du printemps et l'été ensoleillé attire évidemment Jacques Abeille. Gilbert Lascaux, inspiré par la volupté lente de l'automne, compose une fellation tout en allitération et rythme varié. Hiver fécond clôt l'exercice avec la plume musicale et rieuse d'Alexandre Zahnbrecher. Elle se fait chienne, juste pour ma rime sans raison. Putain gourgandine salope, portée au nu, sans rime, avec raison. Goulue fendue, je la connais. Je sais sa moiteur, son odeur, sa liqueur. Lent et long et dur, il polit la cramouille, frappe d'un monde odu le cul si bien tendu. Si trou, si douce, si flaque, si blanche, si noir, si grand, si gros, si raide. Car l'une des variations nouvelles apportées par les quatre clichés de Jean-Louis S. tient dans le contraste des peaux, une blanche et un noir. Rasé, l'abondante pilosité de 1929. Elle porte des bas autofixants superflus et lui un préservatif, impérative nécessité du temps présent. Changement notoire et optimiste qui supplante la clandestinité d'antan, Mathilde Remeau, le modèle féminin, est crédité en page de titre avec le photographe et les poètes. En revanche, son partenaire reste anonyme. Un bon livre érotique préserve toujours un mystère. Jadis, la bouche fardée trop facilement attribuable à Kiki de Montparnasse, désormais, cette queue érigée, émouvante, humide, si réservée. Oui, les femmes sont plus téméraires.
Merci Christophe Beer. Je rappelle également toute une série d'événements liés aux 20 ans de Mauvais Genre. Une exposition d'abord, ce qui n'a rien à voir, mais qui est liée. Libérateur Jacques Fleuret au point éphémère jusqu'au 21 décembre. Des artistes qu'on retrouvera dans l'exposition Agnès B. à Mon Seul Désir. 20 ans de Mauvais Genre à partir du 2 décembre, rue Dieu, chez Agnès B. à ne pas oublier. Puis surtout, venez nombreux le 25 novembre, samedi prochain, aussi au 104, pour la grande soirée Papou Mauvais Genre, l'honneur des 20 ans de votre émission préférée. Je rappelle les ouvrages évoqués ce soir. Bertrand Tessier, Melville le solitaire chez Fayard, Antoine Debecq, Melville, Une vie c'est au seuil, et puis le dossier Melville de Philippe Rouillet, c'est dans Positif, toute l'équipe de Mauvais Genre, Léon-Paul Réclair, Levasseur, Céan Boutata, Claire-Martin Dugard, Céline Duchesnay, Philippe Rouillet, Hervé Aubron, Christophe Beer et François Angelier vous remercient d'avoir suivi cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, émission Polar. De nouveau, on parlera d'Hervé Prudhon et de l'actualité Polar avec Macha Seri, Élise Lépine et Hubert Prolongeau. D'ici là, bonne nuit et bonne soirée à l'écoute de France Culture. Et surtout, rendez-vous au 104 le 25 novembre à partir de 20h30 pour fêter les 20 ans de Mauvais Genre. Bonsoir à tous.